Bonjour Pascal Perrineau.
Bonjour.
Professeur à Sciences Po, spécialiste des droites en France. Question ce matin sur l'avenir des partis traditionnels et donc de la droite en particulier. L'actualité, je le rappelle, aujourd'hui et tout le week-end, c'est jusqu'à ce soir l'élection sans grande passion apparente du nouveau président du parti Les Républicains pour succéder à Laurent Wauquiez. Le parti Les Républicains, alors, avec un score sous la barre des 9% aux dernières européennes, avec un chef qui démissionne, avec une famille éclatée et un nombre de militants en baisse, Pascal Perrineau, la droite a-t-elle traversé pire désert dans l'histoire de la cinquième?
Non. C'est une, pour elle, elle découvre, en effet, l'ampleur de la crise que l'on sentait sourdre depuis plusieurs années. Parce que, rappelons-nous, c'était hier, en 2012 déjà, il y avait eu, après la défaite de Sarkozy devant François Hollande, il y avait eu un passage de relais extrêmement difficile au sein de ce qu'était l'UMP à l'époque, et un affrontement absolument terrible entre Jean-François Copé et François Fillon. Ensuite, Sarkozy avait tenter de reprendre l'appareil pour se positionner dans le cadre des élections primaires. Ça avait été un échec puisque le patron du parti avait été battu et très sèchement dans la primaire de la droite. Laurent Wauquiez lui succède et Laurent Wauquiez a amené aux dernières européennes la droite à un record historique, hein, 8,5%, jamais la droite française de tradition gaulliste ou néo-gaulliste n'avait atteint un tel plancher. Donc il s'agit véritablement pour le Parti Républicain aujourd'hui d'envisager quelle va être sa survie et de penser ou d'essayer de penser les conditions d'un rebond.
Et de se reconstruire. Tout est à reconstruire, c'est l'ambiance générale au sein de ce parti. Le Parti des Républicains est-il tout simplement en train de disparaître, à l'instar d'ailleurs des autres partis traditionnels?
Ah, si vous voulez, les grandes forces de gouvernement en France et dans d'autres pays, qu'elles soient de droite comme de gauche, sont en grand danger. Il y a un phénomène d'usure, toutes les grandes traditions politiques, les grandes organisations politiques qui s'étaient au fond reconstruites après la guerre, sont rentrées en crise. On le voit bien pour le Parti Socialiste. Enfin, qui aurait dit encore il y a quelque temps que le Parti Socialiste était en voie de disparition, tournait aux alentours de 5% des suffrages exprimés, personne n'aurait envisagé cela. Eh bien, ce destin pour la droite n'est pas impossible. Ils n'en sont plus très loin. 8,5, 5, on n'en est plus très loin.
D'ailleurs, qu'est-ce que la droite aujourd'hui? Quel est son corpus, ses valeurs? Ça repose sur quoi aujourd'hui?
Alors, si vous voulez, il y a deux choses qui sont importantes et qui appartiennent, j'allais dire, à la droite classique de toujours. L'attachement aux libertés économiques, à un certain libéralisme économique, même si la droite française n'est pas aussi libérale que beaucoup d'autres droites d'autres pays européens. Et puis, sur le terrain sociétal, l'attachement à des valeurs plus verticales, d'ordre et d'autorité.
Comme le travail, valeur d'épanouissement, voilà. Ça marche toujours, ça.
Voilà. Non, en effet, quand vous regardez les électeurs de droite, aujourd'hui, il y a des enquêtes qui viennent de sortir tout à fait récemment, on voit bien comment il y a ce mélange chez les électeurs qui votent encore, par exemple pour les Républicains, cet attachement au libéralisme économique, et puis des notions d'ordre et d'autorité qu'ils s'attendent à voir mises en œuvre au plan sociétal.
Mais Pascal Perrineau, la droite a-t-elle jamais été homogène? C'est René Raymond qui disait qu'il y avait les libéraux, les bonapartistes, les conservateurs, et est-ce que ça n'a pas été un tour de force à un moment donné, donc en 2002, crois, de fondre le RPR et l'UDF.
Ah, c'était la grande ambition de l'UMP quand elle se fonde en 2002, c'est de devenir un grand parti conservateur à la française, capable d'homogénéiser et de faire vivre dans une même organisation toutes ces sensibilités de la droite française sur lesquelles René Raymond avait beaucoup travaillé. C'est vrai, ces différentes traditions, elles sont toujours là dans la droite française et ça a été l'échec de l'UMP de l'unifier. Alors aujourd'hui, vous pensez, le travail est encore beaucoup plus difficile pour le Parti Républicain. Surtout que cette diversité, maintenant, ça y est, elle s'exprime dans différentes organisations. Certains ont rallié La République En Marche, c'est le cas par exemple d'hommes comme Bruno Le Maire ou Monsieur Darmanin. D'autres ont fondé Agir, bien sûr Édouard Philippe. D'autres ont fondé Agir, ce petit parti de droite qui est en soutien de la majorité. d'autres ont rallié le Rassemblement National, c'est Monsieur Mariani, et puis j'allais dire, il y a ceux qui restent au Parti Républicain, et même parmi ceux-ci, il y a différentes sensibilités. On le voit dans les trois hommes qui s'affrontent aujourd'hui pour la présidence.
Comment la droite en est-elle arrivée là? Je voudrais vous citer les propos d'Emmanuel Mignon. Alors Emmanuel Mignon, c'est l'ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Emmanuel Macron, a-t-elle dit, est le meilleur président de droite qu'on ait connu depuis longtemps. Emmanuel Macron, président de droite, même s'il se revendique de droite et de gauche. Est-ce que ce n'est pas là le principal problème de la droite?
Oui, c'est un des principaux problèmes, parce que la droite a de nombreux problèmes. Mais il est vrai que depuis 2017, souvenons-nous, François Fillon fait tout de même 20% des suffrages exprimés à la présidentielle. Aujourd'hui, la droite est à 8,5.
Donc, aux européennes.
Ça veut bien dire, voilà, aux européennes.
C'est pas vraiment le même scrutin non plus.
Mais... Non, mais si vous voulez, elle est à la baisse, quoi. Bon, elle est à la baisse. C'est bien que les électeurs de droite sont allés voir ailleurs. Et quand vous regardez les enquêtes en détail, vous vous apercevez, par exemple, que la liste de Monsieur Bellamy, qui était aux européennes, n'a réussi qu'à fidéliser 38% des électeurs qui avaient voté François Fillon en 2017. Donc ça veut dire que toute une série d'électeurs sont allés où ? Une minorité est allée vers le Rassemblement National, mais c'est pas ça le principal aimant. Le principal aimant, c'est la République en marche. C'est vrai que sur le terrain du libéralisme économique, Emmanuel Macron et son parti ont réussi à attirer nombre d'électeurs de la droite classique.
Et ça se vérifie notamment en ce moment sur le sujet d'actualité qui est l'immigration, un peu la marotte d'Emmanuel Macron en ce moment. Quand dans un même discours, Emmanuel Macron évoque l'immigration et les questions sécuritaires, quand il souhaite voir émerger, j'en ai parlé ce matin avec Thomas Legrand, cette société de la vigilance contre l'islamisme, n'est-il pas en train justement de surfer sur des corpus jadis réservés à la droite?
Oui, en effet. Alors, il a commencé, en effet, à tenter de séduire cet électorat de droite, et ça a marché sur le terrain du libéralisme économique. Il s'attaque maintenant aux régaliens.
Société. Ah,
voilà. Régalien. Il s'attaque aux régaliens, à l'ordre, à l'autorité, aux problèmes de l'immigration, de l'insécurité. Il faut savoir que sur ce terrain, il n'a pas tout de même le pédigré qui peut aisément convaincre les électeurs de la droite. Et donc, on le voit bien, par exemple, dans les réactions ce matin dans le Journal du Dimanche de Xavier Bertrand. Enfonce le coin sur ce terrain par rapport à Emmanuel Macron, en l'accusant au fond
de... On a perdu deux ans, dit-il.
Voilà, il dit on a perdu deux ans sur ce terrain de la lutte contre l'islamisme. Donc, on voit là que l'enjeu est peut-être plus complexe pour le président.
Patricia Martin.
Même si c'est l'élection de la dernière chance pour les Républicains, est-ce qu'il n'aurait pas été plus raisonnable d'établir un report plus long, c'est-à-dire de mettre ces élections après les municipales de 2020 et qu'il y ait une direction donc collégiale? Est-ce que ça n'aurait pas été plus raisonnable?
Oh, je crois qu'il y avait urgence.
Ça n'aurait rien
tout de même
changé.
Non, ouais. Il y avait urgence pour le Parti Républicain de sortir de l'état de déprime dans lequel sont les cadres du Parti Républicain depuis la défaite des européennes. Donc il y avait urgence. Et puis il faut noter aussi que la direction provisoire du parti de Jean Leonetti a bien précisé qu'aucun des trois candidats en cas de victoire ne pourrait être le candidat à la présidentielle.
Alors pourquoi cette posture? Pourquoi le prochain président du Parti Républicain ne sera-t-il pas candidat à la présidentielle?
Parce qu'on sait que dans le passé ça a été une catastrophe et que ça a toujours débouché sur l'échec. C'est une machine à perdre. Donc là, on veut quelqu'un pour remettre en ordre de bataille le Parti des Républicains. Et puis ensuite, on se posera la question de la sélection d'un présidentiable. Est-ce que ce sera par des élections primaires? Certains, par exemple, sont opposés aujourd'hui à renouveler l'expérience des élections primaires. Ou est-ce que ce sera un choix des militants? Ça n'est pas encore décidé. Mais il y avait urgence aussi parce qu'il y a tout de même un parti qui va rentrer dans une période d'élections locales où il joue gros. Il ne faut pas oublier qu'aux dernières municipales, la grande victoire, c'était celle des Républicains.
Justement, aujourd'hui, pour les municipales, les Républicains vont devoir ouvrir un peu leur liste aux marcheurs, quitte à faire le deuil de leur bannière, les Républicains. Ça va se traduire par quelques débats houleux. Je pense à Marseille, je pense à Nice, par exemple.
Oui, ça va être extrêmement compliqué. Ça va rendre un peu illisible, d'ailleurs, ces municipales, parce que où sera la gauche, où sera la droite, ça va être extrêmement compliqué, puisque Dans certaines villes, on aura une droite indépendante. Dans d'autres villes, on aura une droite associée à la République En Marche. On va avoir une droite avec des alliances à modulité variable.
Mais pour les municipales, est-ce que comme pour la présidentielle, on vote d'abord pour un homme ou pour vraiment un parti aux municipales ?
Au municipal, on vote beaucoup pour des enjeux d'abord locaux. Les enjeux nationaux ne sont pas si importants, sauf dans les grandes villes que cela.
Et l'étiquette est importante, l'étiquette politique ?
Non, je ne crois pas que l'étiquette soit essentielle. Et au fond, vous savez, on a assisté en termes d'élections locales sous la Ve République à un grand mouvement qu'on a appelé la nationalisation des élections locales. C'est-à-dire, on votait de plus en plus dans les communes comme on votait pour les législatives ou la présidentielle. Ça, c'est véritablement terminé. Et on revient vers les territoire. Et le président du Sénat, Gérard Larcher, qui est un fin analyste politique, l'a bien compris.
Des politiques locales, notamment. Le délabrement de la droite comme de la gauche, est-ce que ça sonne en ce moment la fin du clivage gauche-droite issu de la Révolution ?
En partie, oui. Quand vous interrogez les Français, aujourd'hui, il faut savoir que c'est une très forte majorité d'électeurs qui vous répondent. Les notions de gauche et de droite sont dépassées aujourd'hui pour comprendre les grands enjeux de la vie politique.
Ça se traduit entre populisme aujourd'hui et
alors,
les républicains.
En effet, la tentation d'Emmanuel Macron de polariser le débat entre La République En Marche et le Rassemblement National correspond assez bien à ce nouveau clivage qui est en train de se mettre en œuvre entre, au fond, ceux qui se présentent comme les grands défenseurs d'une société ouverte, à la fois au plan économique, au plan politique, et puis ceux qui sont pour des solutions vigoureuses de recentrage national. Et le Rassemblement National, à cet égard, est à l'avant-garde de cette famille.
Mais Pascal Perrigneau, vous avez été l'un des cinq garants de ce grand débat national, donc une consultation unique au monde, dont on peut se dire qu'elle a revitalisé en quelque sorte la démocratie. Vous êtes allé vous-même sur le terrain. Est-ce que vous avez entendu des propos qui recoupent ceux tenus au Rassemblement National, auquel vous vous intéressez aussi depuis de longues années ?
Oh oui, on entendait sur le terrain, bien sûr, on voyait bien qu'il y avait des citoyens qui avaient l'habitude maintenant de voter pour le Rassemblement National. On le voyait bien dès que les enjeux de l'immigration, en particulier, je me souviens de débats à Grasse, dans la ville de Grasse, où il y avait dans la salle une forte sensibilité d'électeurs proches du Rassemblement National, même si ces thèmes n'étaient pas les thèmes privilégiés. On parlait beaucoup plus du social, on parlait beaucoup plus des problèmes de santé, des problèmes de salaire, des problèmes de mobilité pour aller au travail, que des problèmes d'immigration.
Mais on a la cartographie des préoccupations des Français maintenant.
Bien sûr.
Donc
bien
ça,
sûr.
Les dirigeants n'ont qu'à...
Tout à fait.
Ils n'ont plus qu'à servir.
Ils n'ont qu'à faire avec. Oui.
À suivre. Un mot sur les trois candidats pour remplacer Laurent Wauquiez. Christian Jacob, donc, qui a mené une campagne sans clivage, au nom du Rassemblement, comme Hollande en son temps à gauche. Est-ce que Christian Jacob est devenu le candidat de la synthèse à droite ?
Oui, il a fait toute sa campagne en se présentant comme celui qui serait le plus à même d'entretenir une synthèse dans un rassemblement qui, sur le papier, est de plus en plus éparpillé tout de même. D'autre part, les jeunes candidats, on le voit bien, jouent plus sur la thématique du renouvellement générationnel. Ce sont deux quarantenaires, Julien Aubert et Guillaume Larrivé.
Guillaume Larrivé, et lui, il veut tracer une ligne droite, très à droite même. Est-ce une tendance de fond d'ailleurs chez les militants du parti Les Républicains ?
Quand on parle des militants en tant que tels, des 130 000 adhérents, on verra combien d'ailleurs voteront aujourd'hui.
A priori,
c'est
la moitié. Entre 40 et 60 000. La dernière fois, c'était déjà la moitié, mais ils étaient de 130 000. Là, ils ont perdu énormément.
100 000 personnes,
voilà, 100 000 personnes depuis
2017. Donc Guillaume Larrivé, et cette tendance de droite dure, ça prend chez les Républicains ?
Chez les militants, oui, il y a sur le terrain de la loi et de l'ordre, comme on dit aux États-Unis, il y a une sensibilité qui est une sensibilité ferme, qui appelle à une rigueur, et une rigueur croissante.
Le troisième candidat à la présidence des Républicains, il s'appelle Julien Aubert, lui aussi se revendique d'une droite dure, enfin il préfère parler lui de droite forte.
C'est le plus gaulliste des trois peut-être.
C'est-à-dire, il y a une sensibilité souverainiste chez Julien Aubert qu'on ne trouve pas chez les deux autres candidats. Il le dit lui-même d'ailleurs, il se met beaucoup plus, ou il tente de se mettre dans le droit fil de Philippe Séguin.
Et Julien Aubert, sait-on précisément quel lien il entretient avec Marion Maréchal-Le Pen, à qui on lui prête une proximité de réflexion?
Alors, certains qui entourent Julien Aubert, en effet, ont eu des contacts avec Marion Maréchal. Cependant, quand vous regardez à la fois l'attitude des Républicains et les demandes des électeurs républicains aujourd'hui, il faut savoir qu'une alliance avec tout parti du Rassemblement National ou de personnes qui sont proches du Rassemblement National n'est pas du tout la formule politique qui attire la majorité de ses sympathisants LR ou même des militants LR.
Cela dit, en 2007, Nicolas Sarkozy avait considérablement droitisé son discours et pour capter les voix du FN à l'époque, et ça ne lui avait pas trop mal réussi.
Oui, oui, bien sûr. Si vous voulez, il faut bien être lucide. Aujourd'hui, il s'agit d'une élection où les candidats parlent à des militants et à des militants convaincus. On ne pouvait que s'attendre à un discours de droite rigoureux. Quand viendra la période électorale, il s'agira pour ce grand parti, entre guillemets, de gouvernement, d'avoir un discours un peu plus rassembleur. Parce que s'il s'agit de parler à la famille qui reste entre le Rassemblement National et La République En Marche qui fait les yeux doux à la droite classique, ça ne fait pas tout de même des millions d'électeurs.
Vous avez énuméré en début d'interview les quelques dates qui jalonnent le constat d'échec aujourd'hui de la droite. L'année présidentielle de 2017 avec un François Fillon candidat à l'Élysée empêtré dans des affaires qui vont se révéler judiciaires, est-ce que l'affaire Fillon a durablement plombé la droite et les Républicains en particulier?
Écoutez, elle a rendu les choses en effet difficiles, elle ne les rendait pas impossibles, on aurait pu imaginer.
Mais il n'y avait pas de plan B, hein, cependant. Pour remplacer Fillon à l'Élysée,
oui, vous savez,
sur la route de l'Élysée.
L'affaire Fillon, c'est pas la première affaire qui touche un candidat d'importance à droite ou à gauche. Il y en a eu d'autres, il y en aura certainement d'autres. La droite aurait pu connaître une dynamique électorale qu'elle n'a pas connue, parce que tout de même, la droite, elle a besoin d'incarnation, encore plus que d'autres courants. Il n'y a pas d'incarnation à droite aujourd'hui. Il y a un déficit d'incarnation phénoménal même. D'autre part, quelle est la stratégie de cette droite? C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas clair. Et d'autre part, je crois qu'aujourd'hui, en matière politique, il faut inventer d'autres types d'organisations politiques. Et là, pour l'instant, le message de renouvellement, même s'il est porté par certains candidats à la présidence des Républicains, mais ce message n'est pas assez lisible.
130 000 militants, les Républicains, appelés à voter jusqu'à ce soir 20h pour élire leur président. Vote électronique jusqu'à 20h ce soir. Merci d'être venu nous éclairer ce matin. Pascal Perrineau, merci beaucoup et bonne journée.